Chers amis, Hachem Alechem Tiachiou, les Orechemim Tovim, Shanim Nehemim. Nous poursuivons notre étude de la fête de Pessah. Et Zenu Beshem Adonai, Osei Shamaim Vares. À présent, nous allons nous pencher sur un paragraphe du Zohar qui dévoile la raison profonde de l'oppression en Égypte. Elle n'est pas fortuite. Et elle a une cause profonde. Nous allons essayer d'expliquer. Alors le Zohar dit à Shemot, Parashat Shemot, à la page 3, il dit Ve'ele Shemot bene Israël. Donc il est d'oresh ce verset, et voici les noms des enfants d'Israël qui sont venus en Égypte au début de Sefer Shemot. Rebechia Patach. Rebechia ouvre son propos, introduit son propos, il ouvre son propos, le mot Patach, il est bien choisi parce que en général, dans le Zohar, on ouvre, quand on dit on ouvre sa bouche pour parler, alors on dit « Petar picha ve'ayiru devrecha » ouvre ta bouche, que ta bouche s'ouvre et que tes paroles illuminent. Donc il introduit son propos par un verset dans les Proverbes, dans Michelet. Alors il est dit, il est conseillé, Michelet conseille à l'homme « Al tilham et lehem ra'ain » ne convoite pas ou ne désire pas ou n'espère pas le pain de celui qui est ra'ain. Ra'ain, c'est celui qui est radin, qui n'aime pas donner, qui n'est pas généreux et qui n'aime pas partager et qui a un œil et un regard étroit sur ce que possède son prochain. Ve'al tit'arav le mata'imotav. Et ne désire pas ses délices, c'est ce qu'il a de meilleur. Al-til ham et lechem ra'ain. Alors de qui il s'agit? Begin de Naama o Anaa de Aou Barnash de Ave ra'ain. La vihu kedai le michal mine. Il dit parce que begin du fait de le pain ou le profit que l'on peut tirer de celui qui est ra'ain, de cet homme qui est qualifié de ra'ain, qui est radin, qui est le regard étroit, et qui est à l'opposé de la générosité, de l'ouverture, et qui n'a un cœur, qui n'a pas un bon cœur. Alors il n'est pas conseillé, lo kedai lav hi hu kedai le michal, Ulit anehmine, il n'est pas kedai, ça ne vaut pas la peine de tirer profit de lui, de manger de ce qu'il possède, de ce qu'il te propose, et de jouir de ce qu'il te présente. Di kadna hatu Israël et Mitzrayim, parce que si quand les Bnei Israël sont descendus en Égypte au départ, Loit Amun Naama de Mitzray, s'il n'avait pas consommé, goûté au pain des Égyptiens, Loishtav Kub Galuta, il ne serait pas installé dans la galoute. Veloya Irkun Lun Mitzray, et les Égyptiens n'auraient pas pu les dominer et leur faire du mal. Alors à ce sujet, il est dit, Rabbi Tzrak lui oppose, Amarle Rabbi Tzrak. Rabbi Tzrak lui oppose, il y a Gzera et Gaza. Voilà que c'était le décret a déjà été décrété. Donc, lors de l'alliance Brit Ben Abetarim, alors il est dit là-bas que le décret, Abraham Avinu a dit à Kadosh Baruch Hu Bama Eda Ki Irachena, comment je vais savoir que ma descendance va hériter de la terre? Et Kadosh Baruch Hu lui a promis, que sa descendance serait pendant 400 ans, 4 générales, 400 ans esclaves, et ils seront pressés, et après ils sortiront. Donc c'était le décret déjà fixé. Amarle, kula yihu kedekayaout, c'est vrai. De aloid gazar be mitzrayim davka. Donc c'est vrai que ce décret, il n'est pas précisé dans le verset que ce sera en Égypte. De aloketiv qui guère, et là, il y a marqué qu'ils seront esclaves dans un pays étranger, mais il n'y a pas marqué qu'ils seront esclaves en Égypte. Ça aurait pu se passer même dans un autre pays. Donc, quel est le sens de ce passage? Il est dit dans la Gemara dans Shabbat, il est dit que un homme ne doit jamais faire de distinction et de préférence entre ses enfants. Voilà que du fait que Yaakov Avinu a fait une préférence et a donné à son fils Yosef un vêtement particulier, différent de celui des autres frères. Alors ils en ont voulu à Yosef, et ça a amené la haine et la jalousie, a amené le fait, la discorde qu'il y avait entre les frères et Yosef, a fait en sorte qu'ils ont voulu le tuer, puis ils se sont ravisés, ils l'ont vendu en esclave, et Yosef a été vendu en esclave, est descendu, a été vendu en esclave en Égypte, et nos ancêtres sont descendus en Égypte, et Yaakov lui-même est descendu en Égypte. Donc tout ça a été causé, l'exil en Égypte a été causé de ce fait-là, du fait de la jalousie. Et Tosfot demande, voilà, qu'il est dit que c'était déjà garanti, décrété. Alors, on dit que c'était pas décrété en Égypte. Tosfot donne à peu près la même réponse que le Zohar. Donc, il n'est pas mentionné que ce sera en Égypte. Et pourquoi donc ça s'est passé en Égypte? Et pourquoi donc les Égyptiens ont dominé et ont opprimé l'âme Israël? Alors, aujourd'hui, ici, c'est du fait que les Bnei Israël ont joui et ont profité de ces gens. Les Égyptiens sont qualifiés de Ra'ayn. Ils n'aiment pas partager. Et donc, le Zohar nous précise que si les Bnei Israël s'étaient abstenus de manger le pain de l'Égypte, à ce moment-là, les Égyptiens n'auraient pas pu les dominer. Alors ça demande véritablement. Et s'ils sont en Égypte, le pain de qui vont-ils manger? Comment auraient-ils pu se nourrir si ce n'est du pain d'Égypte? Et d'ailleurs, ils sont descendus en Égypte pour cette raison, pour se nourrir, parce qu'il y avait la famine. Et que signifie donc le fait, et s'ils n'étaient pas descendus en Égypte? Donc ils auraient acheté du pain égyptien et ils l'auraient ramené chez eux, en Eretz Canaan. Donc est-ce que ça change? Quel est le sens de cette mise en garde que nous donne le Zohar? Le Zohar poursuit encore un petit paragraphe. Amar Rabbi Yitzhak, Mandehu Ba'al Nefesh. Celui qui est Ba'al Nefesh, Lo Yochal, il ne doit pas manger, Lo Yochal im Barnash de Michleh, Yatir Mishar Bene Adam. Alors, il ne doit pas manger avec quelqu'un qui mange plus que les autres hommes. Celui qui aime manger, qui s'adonne à la matérialité, qui aime profiter de ce monde. Alors, celui qui est Baal Nefesh, celui qui mange pour se nourrir et qui ne vit pas pour. Il mange pour se nourrir parce qu'il a besoin, il faut vivre, il faut nourrir son corps pour vivre. Mais l'essentiel n'étant pas de jouir de ce monde. Alors, il ne faut pas qu'il mange avec, il ne faut pas qu'il s'associe, qu'il partage son repas avec ce genre d'individu qui est qualifié de Ra'ayn. Il ne pense qu'à jouir de ce monde, c'est ça Ra'ayn. Et le Ra'ayn n'aime pas partager parce que ce qu'il possède, il veut lui-même en jouir pour lui-même. Ou man dehu hazil batar me'oy, ou bien celui qui veut remplir l'état, les plaisirs, il veut profiter des plaisirs de ce monde et il veut satisfaire tous les désirs de son estomac. Si ça lui arrive de se retrouver avec cet individu-là, il se sacrifiera, il se dominera et quand bien même aurait-il faim, il maîtrisera son désir de manger, son besoin de manger, et il ne mangera pas de chez lui. Delet nehama bisha be'alma bar mehahu lehem ra'ayn. Il n'y a pas pire poison mauvais pour l'homme que de manger du pain, du repas, de ce Ra'ayn, Maketiv. Alors, qu'est-il dit au sujet des Égyptiens? Que le Yochlou Namitrim, il est dit au sujet, quand Yosef invita ses frères à manger avec lui, il dit qu'ils ont mangé de manière distincte, les Égyptiens seuls, Yosef seul et les frères seuls. Pourquoi? Parce qu'il est dit, lo yochlou Namitrim, le cholet à Ivrim, lehem. Kitoavat Mitzraim, il est Mitzraim. Alors, ils ne pouvaient pas manger ensemble. L'Égyptien ne s'interdisait de manger avec les Ivrim, parce que c'est une abomination pour eux. Pirouche, du fait que eux, ils sont Ra'im, donc l'Égyptien sont. Le Yochlou, ils ne peuvent pas voir comment les Bnei Israël eux-mêmes mangent. Donc, il y a une distinction entre la manière de manger des Égyptiens et la manière de manger des Ivrim. Alecha, lechem ra'ayin. C'est ça la définition de lechem ra'ayin. Donc on voit bien que eux-mêmes, les Égyptiens, ne s'interdisaient de manger et considéraient les blés, les Ivrim, de la manière dont ils mangeaient, comme étant une abomination. Alors quelle différence? Juste pour expliquer cette idée-là. Comment manger? Et nous allons voir que c'est quelque chose de fondamental. L'exemple est le suivant. Quelqu'un qui se met à table et il a son assiette devant. Il est concentré. Alors, il ne doit pas. La manière de manger, les Égyptiens, c'est comme si que l'individu, l'homme, se penche vers la matérialité. Se concentre. Il ne faut jamais se pencher vers l'aliment. Et il faut, à l'inverse, prendre l'aliment et le lever au niveau de sa personne. Donc, élever l'aliment, prendre la sienne et élever l'aliment vers soi. C'est pour cela que nous faisons la bracha. Avant de manger, on a faim. Avant de manger, on prend du recul. On fait la bracha, on comprend pourquoi on mange. Quand on mange, on ne mange pas pour jouir de ce monde. On mange pour se nourrir afin d'avoir un corps sain et fort pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. C'est ça le sens de la bracha, on prend du recul. Celui qui se penche, il va vers l'assiette, alors il va vers sa source, il est fondamentalement de la matière. Voilà que Chachamim nous dit quelle est la loi de l'attraction, pourquoi un objet, quand on le lâche, il tombe, il est attiré par la terre, parce que toute la matière chaque chose et cherche à retourner à sa source. Et il dit, l'âme Israël, pourquoi l'homme marche droit? Il dit, parce qu'il est tiré vers le haut. Les animaux sont à quatre pattes et regardent. Les animaux regardent vers le lieu de leur création. Donc, essentiellement, ils sont matière. Donc, ils regardent vers le lieu d'où ils ont été créés. Donc, ils retournent à leur source. L'homme marche droit parce que la Neshama, comme il est dit dans le psaume, quand la neshama te hallelia, halleluya, Chachamim dit la neshama doit louer l'Éternel. Alors, quel est le sens de ce verset? Alors, le Midrash dit, c'est à chaque fois, à chaque inspiration, à chaque expiration, on doit louer l'Éternel, à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que la neshama, elle va retourner à chaque inspiration, à chaque expiration, la neshama veut quitter le corps et retourner à sa source. De telle sorte qu'elle va vers le haut et Hakadosh l'oblige à rester dans le corps de l'homme. Donc c'est-à-dire que pourquoi l'homme, nous disent les Mkoubalim, pourquoi l'homme marche droit vers le haut? Parce que la Neshama qui le tire vers le haut. Donc chez le Ram Israël, l'essentiel étant la Neshama. Comme il est dit, le corps de l'homme n'est que le vêtement de la Neshama. Donc c'est le corps, donc la Neshama est l'essentiel. Donc, quand on mange, on doit nourrir son corps, certes. Les Mkoubalim disent qu'en mangeant, même l'âme se nourrit, certes, par les énergies spirituelles qui sont contenues dans les aliments, comme il est dit dans le verset, « Lo'ala lehem levado yahya adam »« Kakol motzapi hachem yahya adam » L'homme ne se nourrit pas uniquement que du pain, mais de ce que le pain contient toute la création contient la parole divine, les énergies de vie. Donc le corps se nourrit de la matière, mais les énergies de vie qui sont contenues dans les aliments nourrissent la neshama. Donc l'essentiel étant les énergies de qui sont contenues dans l'aliment. Donc il s'agit d'élever l'aliment et de le mettre au niveau de l'homme. Ce qui signifie que nous ne sommes pas essentiellement de la matière, nous sommes notre âme. Ce qui définit l'homme, c'est son âme, sa personnalité, et se distingue de par son âme, la qualité de son âme. Les Bnei Israël, en allant en Égypte, ils se sont mis sur... Alors, il y a deux concepts tout à fait opposés. Quel est l'essentiel de la vie? Quel est l'essentiel, le fondamental de la raison d'être? On est là pour jouir de ce monde ou on est là pour autre chose? Et ici, il est dit dans le Zohar que si les Bnei Israël n'avaient pas mangé le pain des Égyptiens, alors ça signifie qu'ils l'ont mangé gratuit. Ils ont mangé tel que les Égyptiens l'ont mangé. C'est-à-dire qu'ils se sont soumis à la domination du système. Ils se sont inscrits dans la civilisation égyptienne. Ils ont adopté, c'est ce que le Zohar veut dire, ils ont adopté la manière d'être du fait qu'ils ont été contaminés en mangeant leur pain. Donc c'est ça qui a fait que les Égyptiens ont réussi à les dominer. Alors que s'ils avaient dominé cette tentation et ils avaient acquis, ils avaient payé ce que les Égyptiens leur... le sens ici, c'est qu'ils l'ont mangé gratuitement. Et ils n'auraient pas dû manger gratuit, ils auraient dû le payer, et de telle sorte de l'acquérir et d'élever la matière. La nourriture aurait changé de système. Et fondamentalement, il y a deux conduites, il y a deux manières de voir la vie. Il y a la conduite naturelle. Alors on peut comprendre que la conduite naturelle indique que l'essentiel est dans la matière. C'est le Teva. Et il y a la conduite surnaturelle qui indique que l'essentiel étant la spiritualité. Alors, ces deux conduites-là, elles sont symbolisées par le Shem Elohim qui apparaît dès le début de la création, Bereshit Bara Elohim, et le Shem Havaya Baruch Hu qui apparaît de manière... la conduite qui jaillit de manière surnaturelle lors de la sortie d'Égypte. Le Shem Havaya Baruch Hu. Donc ils auraient dû se maintenir dans ce système du Shem Havaya Baruch Hu, ce que ont initié les Avot HaKedoshim, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais eux se sont soumis, étant en galoute, alors ils se sont soumis à l'Égypte. Ils se sont inscrits dans le système égyptien. Et donc, de telle sorte qu'en se soumettant à l'Égypte, ils ont, entre guillemets, causé que le système, l'autre système qui leur était particulier, s'est mis en sommeil. De telle sorte qu'ils ont confié leur destinée à la domination égyptienne. C'est ça le sens qui est indiqué ici. C'est ça le sens de Ra'aïn et de l'homme généreux. L'homme généreux, il partage ce qu'il possède et il veut le bien de l'autre parce qu'il sait que ce qu'il possède, il n'est que ne lui appartient pas. C'est un jour qui lui a donné la richesse, par exemple, pour qu'il en fasse profiter les autres. Parce que l'essentiel est ailleurs. C'est ça le sens de la domination égyptienne. Et c'est fondamentalement les deux systèmes, les deux manières les deux conduites de ce monde. Donc c'est cette idée-là qui indique que la raison profonde de la galoute. D'ailleurs, Yosef, quand il invite ses frères à transmettre à leur père qu'ils viennent le rejoindre en Égypte, et il lui dit « Ne t'inquiète pas, c'est moi qui te nourrirai. » C'est comme ça que le verset dit. C'est-à-dire que Yosef sait que Yaakov Avinu aurait des réticences à descendre en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il veut se préserver de cette influence. Et Yosef lui garantit que c'est lui-même, Yosef, qui le nourrirait. Donc, c'est comme si il va l'apaiser. Mais après cela, on voit que le galout fait l'influence de la société ambiante faisant son effet. Ils se sont inscrits dans le même système que les Égyptiens. Et c'est ce que le Zohar vient nous mettre en garde. C'est la raison fondamentale pour comment la galoute a démarré. Dans le Midrash, au début de Shemot, il est dit, il est ramené un pasuk dans Tehilim où il est dit que du fait que Hafru Brit Mila, Natan Belibam Lisno Amo Litnakel Ba'avadav, Akadosh Baruch Hu a mis dans le cœur des Égyptiens l'idée de s'en prendre à ses enfants et de soumettre et de faire du mal à ses serviteurs. Pourquoi? Parce que les Bnei Israël eux-mêmes ont causé cela. Comment? En arrêtant de faire la Brit Mila, ils ont commencé à adopter les coutumes. Alors ils ont fait la Brit Mila comme le faisaient les Égyptiens. Les Égyptiens aussi faisaient la Brit Mila. Jusqu'au moment où le pharaon décrète d'arrêter de faire la mila qu'avait imposé Yosef. Donc c'est la même idée. Quand on vit sous la domination des ou en exil, on ne doit pas oublier le fait que nous sommes directement liés à Kadosh Baruch Hu, et quand bien même, d'un point de vue économique, nous sommes soumis à la domination de point de vue économique de la nation dans laquelle nous évoluons, des autres nations, nous n'oublions pas que, il ne faut pas oublier à aucun moment que notre Shefa, que notre vie est directement, notre destinée est directement liée à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que d'ailleurs, qu'il y a une obligation continuelle de prier pour la réussite, pour la parnassa. Ce n'est pas la puissance économique du peuple, de la nation dans laquelle nous vivons, qui nous donne qui nous permet de vivre. C'est directement lié à Kadosh Baruch Hu. Cette notion-là, elle indique que la Géoula est de cet ordre-là. C'est ça la définition même de la délivrance. La délivrance signifie se détacher complètement de la matière et savoir que tout ce que nous entreprenons, tout ce que nous pouvons réussir, vient directement d'Akadosh Baruch Hu. Nous attachons à avoir le bitachon, avoir une confiance, une fidélité totale envers Akadosh Baruch Hu et attendre de lui uniquement. C'est le sens de la Géoula. Et dans le mois de Nissan, donc la Géoula d'Égypte et le dévoilement de cette conduite particulière. Et on verra plus tard, après la sortie, que tous les besoins de Ham Israël vont être satisfaits de manière miraculeuse. L'eau, le pain, la manne, le puits, les nuées, etc. Les vêtements grandissaient avec eux, ne s'usaient pas, etc. On voit que tous les besoins élémentaires qui sont une nécessité absolue pour les hommes et qui sont le souci principal de subvenir à ses besoins. La parnassa, ça sert à nous habiller, à manger, à boire, à avoir une demeure, etc. Tous les besoins fondamentaux et de première nécessité qui font que les hommes travaillent et se donnent de la peine, le labeur pour gagner leur vie, ont été satisfaits de manière miraculeuse. C'est ça le sens fondamental de la sortie d'Égypte. Cette leçon-là, elle est symbolisée par la matzah. C'est le sens même de la matzah. Qu'au moment de la sortie d'Égypte, il y a une mitzvah de manger de la matzah, et la matzah n'est pas seulement quelque chose qui ne doit pas être hametz. Il y a un interdit de manger là-bas. Mais avec quoi faisons-nous la matza? La Gemara nous dit, vous shmartem et un matzot, vous garderez les matzot. De quoi doit-on les garder? De faire en sorte qu'ils ne deviennent pas hametz. Ça veut dire, ne peut être apte à devenir une matza que uniquement ce qui peut devenir du hametz. Donc, on ne peut faire de la matza qu'avec les cinq céréales. Et la matzat mitzvah ne peut être faite qu'avec de l'eau et non pas avec du jus de fruits. Parce que si on pétrit la pâte, la farine avec du jus de fruits, alors là, la pâte ne deviendra pas hamet. Alors c'est pour ça que si on fait de la matzah avec du jus de fruits ou des œufs, alors elle n'est pas valable pour... Cette matzah-là n'est pas valable pour manger le soir de Pessah. Donc, avec quoi faisons-nous la matzah? Avec de la farine et avec de l'eau. Et si on les laisse reposer, ils deviennent du hametz. Donc, il faut les pétrir sans cesse et faire en sorte de les cuire avant que ça devienne hametz. Donc, c'est une observance, une mise en garde, une attention particulière de ne pas, de rester dans le cadre de la matzah et ne pas passer dans le cadre du Hametz. Et c'est ça le fondamental. Et c'est à cela que... Et c'est une mise en garde, une attitude que l'on doit avoir au quotidien. Prendre garde de ne pas oublier d'observer, d'être attentif, vigilant, ne pas déraper comme l'ont fait nos ancêtres. Ils ont voulu ressembler, manger le pain des Égyptiens qui sont qualifiés de Ra'aï. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.